Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Nous sommes le lundi 15 janvier, aujourd'hui en première partie d'émission, Benjamin va nous parler du père Castor, figurez-vous. Et Thomas, lui, va nous parler du terrorisme d'extrême droite. Deux salles, deux ambiances. À 13h30, vous aurez le plaisir d'entendre le journal régional proposé comme chaque jour par l'équipe du Graal. En deuxième partie d'émission, David Molto, en charge du relais Artothèque du Peuple et Culture, sera mon invité pour nous parler d'une soirée de cinéma documentaire autour de l'art contemporain. Enfin, les coupes rases ont-elles du plomb dans l'aile? C'est la question que pose la chronique en Limousin. Élément de réponse à 13h50. Et tout ça sera bien sûr suivi de la météo à 13h55. Vous êtes ici sur Bram FM en direct jusqu'à 14h. On commence cette émission avec le point information de la rédaction. Le Rassemblement National casse la croûte à Tulle. Thomas.
Oui, alors Edwige Diaz était présente à Tulle hier pour manger une galette avec des sympathisants d'extrême droite. La politique était bien sûr au rendez-vous, à l'ordre du jour les élections européennes. Derrière elle, lors de sa prise de parole, donc la tête de Jordan Bardella avec en dessous le slogan « Vivement le 9 juin ». On veut arriver en tête et même creuser l'écart avec la liste d'Emmanuel Macron parce que nos deux visions s'opposent, affirme-t-elle auprès de nos confrères de la montagne. Ah bon, leurs deux visions s'opposent vraiment? Moi, je me pose la question.
Alors, qui est Edwige Diaz, Thomas?
Elle est vice-présidente du RN depuis 2 ans, mais aussi conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine et députée de la Gironde. À 36 ans, Edwige Diaz fait partie des nouveaux cadres du parti lepéniste, la vitrine bien sous tout rapport des fachos. En juin 2021, nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine dressaient son portrait. Edwige Diaz est alors candidate pour les élections régionales. L'interview commence d'une manière plutôt caricaturale.
En fait, à chaque fois que j'ai un petit peu de temps pour moi, eh bien, je viens le passer ici avec mes chats, voilà, qui sont mes bébés.
Bah oui, que serait un cadre du RN qui n'aimerait pas les chats? C'est vrai que c'est fatal pour attendrir les cœurs, et il en faut, parce que Edwige Diaz, sous ses traits d'amoureuse des félins, partage les thèses complotistes du grand remplacement, de la submersion migratoire ou encore de la décroissance civilisationnelle. Et attention, elle est attachée à la Corrèze, mais pas pour ses habitants, non non non, on écoute son émotion au micro de France 3 encore.
En 2014, Marine Le Pen organisait un meeting en Corrèze, dans le cadre des élections européennes. Et je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais aller voir pour voir. Et là, quand je l'ai vu arriver sur scène, ça a été. J'ai eu le poil qui s'est hérissé, les larmes qui sont montées aux yeux. Et je me suis dit, bon, ok, Edwige, c'est ça que tu veux faire, donc vas-y.
Marine Le Pen aura donc réussi à tirer une larme à Edwige Diaz. Peut-être qu'elles ont échangé sur leurs chats respectifs. En tout cas, elle ne lâche pas ses petites larmes pour les migrants, ça c'est sûr, parce qu'elle a voté avec ses petits camarades le projet de loi d'immigration du gouvernement le mois dernier.
La loi immigration d'ailleurs, qui continue d'émouvoir. 80 personnes se sont réunies hier devant le tribunal de Tulle pour la dénoncer.
Nous sommes présents pour manifester notre humanisme, pour que la France ne fasse aucune différence entre ses enfants. Marie-Christine Caco de LFI dénonce une loi raciste, xénophobe, injuste et anti-républicaine qui a pris toute son argumentation dans les idées du Rassemblement National. La France insoumise demande l'abrogation pure et simple de la loi asile et immigration. Alors, on a vu avec la réforme des retraites que le gouvernement s'en fiche pas mal des mouvements sociaux qui demandent la non-promulgation d'une loi. Si c'est le cas avec une réforme qui concerne directement les Français, alors on imagine bien comment ça va se passer pour une loi qui concerne les étrangers. De toute façon, le mouvement social ne rassemble pas autant que pour la réforme des retraites. On avait vu jusqu'à 5000 personnes dans les rues de Tulle l'année dernière contre la casse des retraites. Rien de comparable avec les 80 manifestants donc devant le tribunal de Tulle hier. Ali Khan, un autre représentant de LFI, rappelle pourtant qu'il ne faut pas confondre racisme et colère sociale. Réduire les droits des étrangers, c'est réduire vos propres droits.
Merci beaucoup Thomas, on te retrouve demain à 13h en direct pour l'info locale et on te retrouve aussi en deuxième partie de cette première partie d'émission. Tu vas nous parler du terrorisme d'extrême droite, à tout de suite.
Vous êtes ici en direct avec Eve Hermari.
Et à mes côtés dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin. Bonjour Benjamin.
Bonjour à tous et bonne année 2024, hein, c'est un véritable plaisir de vous retrouver après ces fêtes, hein, et c'est également un plaisir de te retrouver, Eve. Alors je vois que tu es légèrement en panique pour cette nouvelle année.
Non, c'est pas de la panique, c'est beaucoup un concours de circonstances techniques qui rend parfois le direct un peu olé olé. Mais tout va bien, je me sens bien en ce début d'année 2024 et ça me réjouit. Je me réjouis de t'avoir en face de moi.
C'était très long pour dire que tu as effectivement paniqué. Dans tous les cas, moi, janvier, c'est un mois que j'apprécie. Hein, il fait froid, c'est le début de l'année, c'est également la période des galettes, et apparemment, hein, selon ce que vient de nous raconter Thomas, Edwige Diaz n'a pas oublié, c'était également le mois de la galette. J'ai tout suivi, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de politique qui mange des galettes. Moi, je l'adore aussi, cette galette. J'adore la frangipane et je pense pouvoir affirmer que mon corps se retrouve composé à 80% d'amandes lors de cette période. Alors pour l'occasion, j'ai voulu faire une chronique sur l'origine de la galette des rois et de la fève, sauf que ça sentait très fort le marronnier journalistique, et comme je vous l'ai dit plus tôt, mon corps est fait d'amandes. J'ai donc réfléchi très fort, et je me suis souvenu de l'histoire de Roule Galette. Est-ce que tu te rappelles de Roule Galette, ce conte pour enfants qui raconte l'histoire d'une galette qui se fait la malle de chez elle pour se faire manger par un renard?
Je la lis tous les soirs à ma fille, donc oui, je connais. Je peux même te la dire par cœur, il n'y a pas de souci.
Vraiment, tu la lis tous les soirs?
Et je la trouve d'ailleurs un peu sexiste sur les bords. Le vieux qui est assis dans son fauteuil et qui dit à la femme « Va balayer le plancher, tu vas y sortir des grains de blé. » Et tu fais une galette avec ça.
Effectivement, bah, il faut savoir que c'est une autre époque, parce que cette histoire... qu'on la connaît grâce au père Castor, elle date de 1950, et tu la lis encore aujourd'hui, hein, preuve de son succès. Et en fait, l'histoire de Roule Galette, c'est adapté d'un vieux conte ukrainien du nom de Kolobok, hein, qui raconte la même chose, sauf que c'était pas une galette, mais un Kolobok, c'est une sorte de beignet, et ça change tout. Mais si tout le monde est capable de me chantonner le générique du dessin animé du même nom, j'en connais très peu capables de m'expliquer d'où sort ce mammifère bedonnant qui raconte des histoires à ses trois petits castors. Et d'ailleurs, il y en a même un qui s'appelle Benjamin, comme moi. Les autres, je les ai oubliés.
C'est vrai.
C'est donc une mission idéale pour moi, d'autant plus que mes amis, et c'est véridique, me surnomment parfois Père Castor, car comme lui, j'ai la queue plate et que j'aime raconter des histoires, surtout, rassure-toi. Eve, le reste est privé. Alors... L'aventure de ce rongeur commence dans les années 30.
Oh mon Dieu.
Voilà, les années 30, Père Castor.
2024 sur Bram FM, ça va être une bonne année.
Ouais, je me suis dit...
Je pense qu'on va bien rire.
Je me suis dit, j'allais la commencer comme ça.
Très bien.
Donc, je reprends. L'aventure de ce rongeur commence dans les années 30. Hein. C'est issu de l'imagination de Paul Fauché et de Lida Durdikova, un demi-temps de l'éducation nouvelle qui invente la collection Père Castor chez Flammarion. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'éducation nouvelle, Eve?
J'imagine qu'il y avait l'éducation ancienne et qu'à un moment, ils se sont dit, c'est peut-être un peu désuet, on va essayer de faire mieux ou différemment.
Alors jusque-là, tu te mouilles pas trop, mais on va dire que t'as raison. En fait, l'objectif de l'éducation nouvelle, et donc l'objectif des livres Père Castor, c'est d'apprendre aux enfants à gagner en autonomie dans leur lecture et à tirer des morales et des leçons par eux-mêmes, sans que ce soit pour autant écrit noir sur blanc. En fait, c'est pas comme dans les fables de La Fontaine qu'on connaît très bien, où il y a une morale à la fin, c'est dit, c'est comme ça, et discute pas. Ici, l'enfant est amené à discuter avec son entourage pour analyser la lecture, et de plus, afin de rendre l'objet du livre moins intimidant, le couple décide de sortir les histoires du Père Castor dans des formats cartonnés et agrafés, un visuel bien plus sobre et moins traditionnel qui donne confiance aux enfants. Hein. Il faut se replacer dans le contexte. Mais dans les années 30, un livre, c'est un bel objet qu'on offre dans des occasions spéciales, comme un baptême ou pour les étrennes. Et ben là, en fait... Ce gros livre, il fait peur, il donne pas forcément envie de le lire. Et ben là, en fait, justement, le Père Castor, et toi, vu que tu lis ces histoires à ta fille...
Ce sont des petites éditions.
Voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est en carton. Et donc, voilà, ça permet de rendre l'objet moins précieux, et donc l'enfant a envie d'aller dessus. Et en fait, le succès de ces histoires est tel qu'une école du Père Castor va ouvrir ses portes en 1947 et durera plus de 20 ans. Alors ici, l'éducation active est privilégiée pour les enfants. Et qu'est-ce que c'est l'éducation active ? Tu vas me dire, c'est pas passif.
Alors, parce que je pense qu'avant, il y avait une éducation qui était passive. Et
ouais.
Du coup, à un moment, ils se sont dit, tiens, on va peut-être les rendre un peu actifs. Ouais. Je sais pas.
C'est à peu près ça, mais je vois que tu te mouilles pas trop et on se répète bien, c'est très bien. En fait, l'éducation active, ça consiste à amener l'enfant à manipuler des éléments, à faire des expériences. Bref, être plus actif dans son apprentissage. Et alors, c'était une petite école, il y avait une cinquantaine d'élèves, mais au fur et à mesure des années, on va quand même jusqu'à une centaine d'élèves. Hélas, elle a dû fermer ses portes par manque de sous, hein, pour faire simple, mais notre école a été ouverte par des parents d'élèves sous la même enseigne, avec les mêmes objectifs. Et voilà, elles existent toujours, hein, elle s'appelle la nouvelle école d'Anthony, elle se trouve à Anthony, dans les
Pourquoi elle s'appelle la nouvelle école d'Anthony? Non,
Et bien parce qu'il y avait une ancienne école.
Tu te mouilles pas trop, on dirait, quand même.
C'est ça, c'est très très bon. Bref, revenons-en à notre père Quenotte. Père Castor, c'est plus de 300 histoires s'étalant des années 30 à aujourd'hui, et je ne vous parle même pas des versions en cassette audio que j'ai eues, personnellement, quand j'étais petit.
Mais il existe aujourd'hui des versions CD, et on peut retrouver toutes les versions audio sur des plateformes d'écoute.
Oui, c'est ça, mais effectivement, elles ressortent régulièrement. Et l'offre est pléthorique, hein, et le succès n'est plus à prouver, tant certains contes sont devenus des références aujourd'hui. Alors moi, tu me dis, Père Castor, je pense à Roule Galette, évidemment. Les Trois Petits Cochons fait partie également des contes qu'ils ont cités.
Alors, Les Trois Petits Cochons, par contre, je pense que c'est quand même en la réécoutant récemment, je tiens vraiment à apporter une critique,
ouais.
parce que quand même, on dénonce la fabrication des maisons en paille,
ouais.
on dénonce la fabrication des maisons en bois,
ouais.
pour finalement ne conserver que le béton. J'ai l'impression quand même que c'est un peu connoté lobbyisme, tout ça, tout ça.
Je ne pense pas que c'était la morale qui était voulue.
Moi, je pense que si.
D'accord. Mais après, si tu veux vivre dans ta maison en paille, ce n'est pas un problème. Et toi, tu m'avais parlé
de Poule Rousse. C'est mon héroïne
des
histoires du Père Castor. Poule Rousse, elle déchire. Mais d'ailleurs, c'est souvent les mères qui sont des héroïnes. Note dans La Biquette et ses chevreaux aussi avec le loup. La mère qui va chercher quand même les biquets dans le ventre du loup, qui remplace par des pierres pendant qu'il fait sa sieste.
Oui, je me rappelle. Tu viens de me rappeler l'histoire là.
Ouais.
Effectivement, il y avait aussi une histoire où c'était une poule et un pigeon, je crois, qui vivaient
mais
ensemble.
Ça, c'est Poule Rousse.
C'est Poule Rousse, ouais, voilà.
La coloc, la première coloc entre deux animaux, entre deux, donc une poule et un pigeon, enfin une tourterelle,
ouais.
pour se défendre contre le renard, en fait. Elles font une coloc.
C'était la sororité avant l'heure.
J'adore.
Alors, aujourd'hui, hein, le Père Castor, hein, il peut passer pour un sénile à raconter les mêmes histoires depuis des années, mais ce sont toujours celles qui plaisent le plus. Alors, on lui pardonne tant et si bien qu'en 2017, les archives du Père Castor, hein, comprenant des originaux, des maquettes et des documents importants, sont inscrits dans le registre international Mémoire du Monde par l'UNESCO, ce qui n'est pas rien. Et ce qui est doublement fantastique, c'est que la médiathèque, qui possède tous ces documents, ne se trouve pas très loin de chez nous, à peine à une heure en voiture si on part de Tulle. Il faudra vous rendre à Meusac, c'est en Haute-Vienne, et vous pourrez visiter la bibliothèque du Père Castor, qui a été construite sur l'ancien terrain de la famille Fauché, donc les créateurs du Père Castor. Et en fait, cette bibliothèque, en plus de stocker toutes les archives relatives aux bûcherons des librairies, ça fait très nom de tueur en série, je trouve, organise régulièrement des expositions et des activités sur cette thématique. Bref, ça peut être une idée de sortie sympa si vous passez à Meusac et que vous aimez bien les histoires du Père Castor. La moralité de cette histoire, ne faites pas refroidir votre galette sur le bord de la fenêtre, sinon elle se fera manger ou un truc du genre. J'ai pas compris la morale, le roule-galette.
Il y en a pas. En tout cas, juste j'ai une question, parce que peut-être que quand tu as fait des recherches pour écrire cette chronique, tu as vu combien d'ouvrages ont été publiés par les histoires du Père Castor.
Alors j'ai eu du mal à trouver un nombre fixe. Je sais qu'il y a plus de 300 histoires uniques qui existent, mais entre les rééditions, entre les romans, parce qu'il y a eu des romans Père Castor qui s'inspiraient des romans historiques. Il y a eu aussi des imageries qui ont été faites avec des gravures qui étaient très jolies pour l'époque, mais qui n'ont pas beaucoup fonctionné. Père Castor, c'est énorme, les collections.
C'est un empire.
Voilà, et c'est très difficile. Et surtout, ça existe depuis les années 30, et le succès a toujours été là.
Et moi, j'avais les cassettes quand j'étais petite. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette chronique qui me réjouit. Parce que j'aime bien les histoires du Père Castor, il faut le dire quand même.
Et puis, au moins, dans Roule-Galette, il n'y avait pas le Rassemblement National qui les mangeait, tu vois.
Non, mais il y a quand même un vieux macho.
Ah, voilà. C'est dit comme ça, on clôturera là-dessus.
Merci beaucoup Benjamin, on écoute Color My Mind juste avant de retrouver la chronique sur le terrorisme d'extrême droite.
Thank you. causons.
Color My Mind sur Bram FM, bien sûr.
Vous êtes ici sur Bram FM en direct jusqu'à 14h.
Rebonjour Thomas.
Rebonjour Eve.
Aujourd'hui, tu souhaites nous parler du terrorisme d'extrême droite alors que de véritables ratonnades ont lieu sous les fenêtres des Français, comme à Romans-sur-Isère. Il y a un mois et demi, il est difficile de regarder ailleurs.
Eh bien oui, parce qu'on n'avait tout simplement pas vu d'actes de ce genre depuis les années 80-90, si ce n'est même depuis la fin de la guerre d'Algérie. La violence de l'extrême droite en France s'inscrit dans une histoire. Au départ, le terrorisme d'extrême droite est avant tout anti-juif. Avant la Seconde Guerre mondiale, il est symbolisé par des personnalités comme Édouard Drumont, avec notamment les ligues d'extrême droite qui pullulent dans les années 20 et 30. Lorsque la gauche se réunira pour former le Front populaire, les fascistes feront de même sous la bannière du Front national. Après le passage de Pétain, les terroristes d'extrême droite se rassemblent derrière une nouvelle figure, René Binet. Ancien collabo, il est marqué par les idées du nazisme, mais ces terroristes vont commencer à évoluer. L'idéologie d'extrême droite change, maintenant ce n'est plus le juif, l'ennemi numéro un, c'est bien sûr l'arabe, le musulman, appelez-les comme vous voulez. La guerre d'Algérie est un tournant décisif dans ce changement de cible, avec la très connue OAS, l'organisation de l'armée secrète. Et un peu plus d'un an d'activité, ce groupe terroriste assassine plus de 2000 personnes, dont une majorité étaient des civils algériens. Les actions de l'OAS étaient taboues, de nombreux officiers de l'armée française en faisaient partie, même si à cette époque, l'armée française officielle n'avait rien à envier aux méthodes de l'armée secrète. On embrasse le père Le Pen, n'est-ce pas ? Les actions violentes de l'extrême droite continueront après la guerre d'Algérie. Un certain nombre de groupuscules se forment, comme l'œuvre française en 68 qui intégrera le Front National de 90 à 2011. Le FN d'ailleurs, dont les principaux membres fondateurs sont d'anciens membres de l'OAS ou bien des collabos, voire même des nazis. Qu'à faire. Et puis petit à petit, de nouveaux idéologues d'extrême droite font leur apparition. Renaud Camus théorise en 2010 le fameux grand remplacement. C'est tout simplement l'idée selon laquelle un jour la population française blanche sera remplacée par la population arabo-musulmane. Cette théorie fumeuse ne s'appuie sur aucune statistique tangible, aucune réalité objective. Elle n'est là que pour faire parler le sentiment qui sommeille en vous, en nous. La peur de l'autre. Cette théorie, elle va motiver des sympathisants d'extrême droite à passer à l'acte. L'attaque la plus connue est celle de deux mosquées de la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le meurtrier assassine le 15 mars 2019 une cinquantaine de personnes et en blesse autant. Avant de passer à l'acte, il publiera un manifeste de 78 pages au nom équivoque, le Grand Remplacement. Renaud Camus sera interrogé à la suite du drame. Un journaliste lui demandera s'il s'oppose à la vision que le terroriste portait sur ses propres textes. Il expliquera calmement que non, bien au contraire, et qu'il espère que le désir d'une contre-révolte grandisse contre la colonisation actuelle de l'Europe. Rien qu'entre 2017 et l'été dernier, une dizaine d'attentats d'extrême droite ont été déjoués en France. C'est la deuxième plus grande menace terroriste en France après le terrorisme islamique. Dans ce contexte, Eve, il est tentant de se poser une question. Comment se fait-il que les responsables politiques et les médias de masse passent autant de temps à dénoncer l'un mais pas l'autre ? Eh bien, ils le font, mais d'une manière étrange. On qualifie volontiers les terroristes islamistes comme tels sur les plateaux de télévision, mais le vieil homme de 87 ans qui a attaqué en 2019 la mosquée de Bayonne est un déséquilibré. C'est la logique médiatique. Le terroriste islamique est exotique, il est caricaturé dans les films, les jeux vidéo, il fait peur depuis Charlie Hebdo ou le World Trade Center, qui restent certes des attentats très meurtriers. Ils font régner la terreur, ce sont de vrais terroristes. Plus en tout cas que les terroristes d'extrême droite, c'est la vie de nos politiciens actuellement en France. Et nos responsables minimisent encore la menace lorsqu'ils la comparent à une prétendue violence d'extrême gauche. Les éco-terroristes sont mis sur le même plan que des groupuscules comme la division Charles Martel. Pour rappel, ce groupe est à l'origine, entre autres, de l'attaque punitive de Romans-sur-Isère en novembre dernier dont tu parlais dans l'introduction de cette chronique. Ces groupuscules sont de mieux en mieux organisés. On compte actuellement une cinquantaine de ces groupes répartis un peu partout en France. Parmi eux, des noms connus comme pour leur ultra-violence, comme l'Action Française, le groupe Union Défense, le GUD. Des personnalités politiques d'extrême droite sont aussi proches de ces groupes. On a notamment pu voir Marine Le Pen en compagnie de ses amis du GUD à de nombreuses reprises. Elle a pris ses distances pour la première fois en mai dernier avec Frédéric Chatillon, ancien chef du GUD et prestataire du Rassemblement National. Il est un ami très proche de Marine Le Pen depuis des décennies. À méditer par rapport à ce que je vous ai dit en début d'émission.
Merci beaucoup Thomas, et pour aller plus loin, je vous invite à vous pencher sur l'article du National Geographic du 8 janvier dernier. Un article témoigne de la présence des communautés musulmanes qui vivaient en Provence dans le Moyen-Âge. Article dans lequel Catherine Richard, archéologue spécialiste de la présence musulmane en Provence au Moyen-Âge, témoigne de la difficulté pour continuer d'éclaircir la nature de la présence musulmane durant le Moyen-Âge en France et plus largement en Europe méridionale, parce que sachez-le, les archéologues reprennent leurs outils en affrontant parfois certaines difficultés d'ordre immatériel et historique. Historiographique, je la cite, sous le franquisme par exemple, on a remis en question l'influence arabo-islamique dans la société hispanique, alors que cette coexistence en Espagne entre chrétiens, juifs et musulmans a tout de même duré 7 siècles. Aujourd'hui en Espagne comme en France, cela fait débat et donne lieu à des résistances parce que ces découvertes contribuent à démontrer que notre monde est un monde pluriel, fait de migrations et que les brassages sont incessants depuis la nuit des temps. Dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous avec le journal régional. On se quitte avec Black Puma et le titre Angel. À tout de suite. Black Puma avec le titre Angel sur Bram FM. Dans quelques instants, nous poursuivons notre émission en direct avec un titre musical. Et juste après, il y aura mon invité David Molto qui viendra nous parler d'une soirée documentaire avec une programmation spéciale autour de l'art contemporain. Ce sera juste après le journal régional proposé par toute l'équipe du Graal. À tout de suite.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Lundi 15 janvier 2024, il va faire un peu moins froid, mais il peut encore y avoir des gelées matinales en Limousin. Prudence sur les routes, par endroits il peut y avoir des plaques de verglas. C'est justement le verglas qui fut à l'origine hier d'un accident sur la RN 145 au niveau de Saint-Vaury en Creuse. Le chauffeur d'un poids lourd a perdu le contrôle de son véhicule, il a percuté la glissière centrale avant de se mettre en portefeuille. Sur cette portion de voie, on circule encore sur une seule voie dans les deux sens de circulation. Ce dispositif est prévu jusqu'à la remise en état de la glissière de sécurité centrale, indique la préfecture. Les travaux devraient être achevés ce soir. Plusieurs rassemblements étaient organisés hier pour demander l'abrogation de la loi immigration. C'était par exemple le cas à Tulle. Entre 50 et 100 personnes se sont réunies devant le tribunal de Tulle. Une nouvelle mobilisation est annoncée pour dimanche qui vient à Brive, mais aussi à Limoges à partir de 10h30 au carrefour Tourny. Un jeune homme a perdu la vie à Limoges après un affrontement dans le quartier des Portes Ferrées. Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de vendredi à samedi passé. Bilan, un homme d'une vingtaine d'années blessé et un jeune de 18 ans décédé des suites de ses blessures à la tête. Le parquet de Limoges a bien évidemment ouvert une enquête. Limoges Métropole espère attirer des emplois en 2024. À mi-mandat, c'est en tout cas l'objectif du président de la communauté urbaine, Guillaume Guérin.
Limoges a souffert de deux grandes réformes, la perte de l'armée et la perte du statut de capitale régionale, qui a supprimé plus d'un millier d'emplois publics sur le territoire. Donc c'est la priorité des priorités, recréer de l'emploi. Nous travaillons auprès de différentes entreprises pour tenter de les faire venir ici. La première avec laquelle nous avons travaillé, c'est le groupe IMA, c'est Intermutuel Assistance. Donc c'est une centre d'appel un peu premium qui agit pour les très grosses mutuelles françaises. 350 à 380 emplois créés en hyper-centre-ville, dans le site de l'ancienne clinique chez nous en face de la mairie. Les premiers emplois vont arriver là déjà, dans deux mois, au site du bâtiment 27 à Marceau, le temps que les travaux se fassent dans la clinique. Il y a d'autres belles nouvelles, l'arrivée d'Hermès à Couzex, qui va bien sûr transférer les emplois qui étaient à Saint-Jules-Martel sur Couzex, mais aussi créer une centaine d'emplois supplémentaires sur le site du Mas de l'Age. On a parfois des bonnes surprises, comme cette entreprise de radar là, qui vient de s'implanter à Esther. C'était pas du tout gagné d'avance. Ça, c'est le transfert d'emploi toulousain vers Limoges.
Propos recueillis par Charlindo de RCF Limousin. Ils ont arraché la victoire hier soir dans un beau blanc surchauffé. Victoire des basketteurs du Limoges CSP 80-77 sur Rouen. Leur coach d'un soir, Romain Leroy, peut être fier de cette victoire qui permet de remonter d'une place dans le classement de Betclic Elite. Et dès aujourd'hui, le Limoges CSP a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Jean-Marc Dupraz. Il remplace Ilias Kansouri, parti la semaine dernière. Joueur et déjà entraîneur du CSP en 2014, c'est un retour aux sources pour Jean-Marc Dupraz. Il remonte à la 6e place après leur premier match couronné du bonus offensif au Stadium. Vendredi soir, les rugbymen du CA Brive l'ont emporté 21-3 face à Rouen. Prochain match ce vendredi contre Montauban. Les championnats de France de cyclocross avaient lieu hier dans le Morbihan, à Camors précisément. Quelques médailles reviennent en terre limousine, des récompenses pour des sportives auviennoises. En catégorie espoir, Olivia Onesti a décroché la médaille d'argent. C'est une médaille de bronze pour Anaïs Morichon en élite. Et en élite homme, c'est tout de même une belle 5e place pour le creusois David Menu. Enfin, un mot du Dakar, la course s'achèvera vendredi. Le Limougeot Sébastien Herbé se classe maintenant 87e sur les 120 motards encore dans la course. Et l'équipage SSV, en partie corrézien, William Grard et Julien Vincent, même s'ils réduisent l'écart, ils sont toujours derniers de leur catégorie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle semaine à tous.
Vous êtes ici en direct sur Bram FM.
Et dans quelques instants, à 13h50, vous entendrez la chronique en Limousin suivie de la météo. Il est l'heure du titre du jour et j'ai choisi, parce que c'est moi qui vais vous le présenter aujourd'hui, j'ai choisi Baraillé, un vidéoclip réalisé par Ashkan Raimi. C'est une chanson composée et interprétée par l'artiste iranien Shervin Hajipour au début des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini. Publié environ deux semaines après le début des manifestations sur Instagram par le chanteur, le vidéoclip est visionné plus de 40 millions de fois en deux jours. La chanson est devenu un hymne contestataire dénonçant les crimes de la République islamique et revendiquant la liberté. Producteur et auteur-interprète R&B et Soul, Shervin Agipour avait participé à un programme télévisé similaire à notre Star Academy, et c'est le titre Baraillé qui le fera connaître internationalement. Il avait auparavant publié plusieurs chansons sur différentes plateformes comme SoundCloud, Instagram, où il compte de nombreux abonnés. Le 29 septembre 2022, soit deux jours après avoir posté sa chanson sur Instagram, il est arrêté pour avoir manifesté son soutien aux émeutiers et sa solidarité avec les ennemis en publiant la chanson sur les réseaux sociaux sans en obtenir l'autorisation, parce que oui, en Iran, il faut d'abord demander l'autorisation à un ministère avant que votre chanson puisse voir le jour ou non. Le 4 octobre, il est libéré sous caution. Le procureur judiciaire de la province de Mazandéran annonce à l'agence officielle IRNA que Shervin Agipour encourt néanmoins toujours des poursuites judiciaires. Le titre Baraillé est composé de deux tweets postés par différents manifestants qui expliquent ce qui les amène à contester le régime dans la rue. Alternant l'évocation d'un présent désenchanté et l'avènement de jours meilleurs, la chanson qui se structure à partir de l'anaphore baraillé, qui signifie « pour » ou « à cause de », dénonce l'absence de liberté dans l'espace public, pour danser dans la rue, pour la peur de s'embrasser, pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs, la corruption généralisée et les préoccupations écologiques. Et elle fait également référence à des scandales récents en Iran qui ont suscité la colère populaire pour les ruines des maisons mal construites. Elle se conclut par une référence au slogan apparu dans les manifestations kurdes ces dernières années et devenu le mot du ralliement des manifestations en Iran « Pour les femmes, la vie, la liberté ». Il faut savoir quand même qu'après la suppression du vidéoclip sur le compte Instagram du chanteur, l'arrestation de ce dernier, puis sa libération sous caution, l'agence Tasnim, qui fait la promotion de la République islamique, a diffusé sur Telegram une vidéo qui réemploie la chanson de Shervin Agipour, cette fois-ci associée à des réalisations du régime théocratique pour les promouvoir. La chanson est présentée comme un événement important de la contestation des Iraniennes, suite à l'assassinat de Mahsa Jina Amini, dans le podcast « Loin de l'Iran, près de nos sœurs » d'Anaïd Jalali et de Juliette Pierron-Rouel, qui retrace le soulèvement, mais aussi dans le roman graphique « Femme, vie, liberté » coordonné par Marjane Satrapi, que je vous recommande chaudement en ce début d'année et qui est disponible à la librairie Préférence. On écoute tout de suite le titre et juste après, on sera avec mon invité David Molto.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Thank you.
Shervin Agipour avec le titre Baroyé, si j'essaye de le prononcer un peu correctement. Alors, normalement, il y avait David Molto qui devait être à mes côtés aujourd'hui pour nous parler d'une soirée documentaire, de films documentaires autour de l'art contemporain. Il semblerait qu'il n'a pas pu arriver jusqu'ici, c'est pas grave. Je vous propose une chronique environnement proposée par Titouan Perron qui nous est livrée par RTF Limoges. Vous allez donc entendre un jingle qui annonce que vous êtes sur RTF Limoges. Ce n'est pas le cas, vous êtes bien sur Bram FM. On se retrouve juste après la chronique environnement. À tout de suite.
La chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.
Donc j'ai entendu dire qu'il y avait un complément sur l'enquête Wetland. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît, et nous rappeler ce que c'est l'enquête Wetland ?
Alors oui, l'enquête Wetland, c'est, on le rappelle, le comptage international en fait des oiseaux d'eau, donc oiseaux d'eau hivernants. Dont fait partie les cormorans, les aigrettes ou encore tous les canards. On va avoir en fait à cette période un complément d'enquête donc, qui se fait tous les 3 ans sur particulièrement l'espèce grand cormoran. Le principe est simple, c'est qu'on va aller compter les dortoirs en fait, des cormorans, puisqu'à ces périodes, un dortoir... pour rappel, c'est le fait d'avoir un rassemblement d'individus sur un site qui va être plutôt assez régulier et qui va durer plus ou moins sur une longue période. Donc le principe est d'aller faire le comptage de ces dortoirs. C'est un comptage qui va se faire plutôt vers la fin de journée, donc on va commencer à peu près vers 4 heures et on va faire ça jusqu'à la tombée de la nuit. Le principe est justement d'essayer de trouver ces regroupements de grands cormorans. L'avantage, pourquoi faire un dortoir quand vous êtes une espèce, tout simplement, ça permet aux individus d'éviter justement plus d'attaques ou plus de risques, ou quand vous avez des froids, tout simplement aussi au niveau de la température, mieux se réchauffer. Et il y a d'autres espèces qui font ce même principe-là, type le Milan Royal.
Ok, donc quelles sont les dates pour ce comptage-là ?
Ça va être relativement lié en fait au comptage Wetland, donc ça peut être soit en même temps, qui est le week-end du 13 et 14 janvier, soit autour de la mi-janvier, donc autour du 15, mais ça, les dates sont à repréciser tout simplement avec notre organisateur. Donc l'organisateur est Philippe Hubert, et pour trouver son contact, vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet limousin-lpo.fr. Vous avez juste à le contacter pour lui demander justement quelle démarche il faut effectuer pour pouvoir participer, pour qu'également il vous donne des conditions ou recommandations à suivre en particulier. Et il faut savoir aussi utiliser la plateforme naturaliste qui est Faune Limousin ou Faune France, tout dépend du niveau de l'enquête. À ce niveau-là, il me semble que ce sera Faune France. Et vous avez l'application aussi Naturalist qui est sur le mobile. Donc après, la plateforme en soi, que ce soit Naturalist, Faune Limousin, Faune France, vous avez juste besoin de créer un mail avec un mot de passe et vous avez un accès en fait à une plateforme de données qui vous permet de renseigner toutes vos observations, également de découvrir les observations de d'autres personnes et de participer à des enquêtes participatives particulières comme celle-ci.
Ok. Pour participer à ces enquêtes participatives, pardon, est-ce que les gens doivent être déjà initiés à ces pratiques-là ?
Alors, pour certaines enquêtes, avoir une formation au préalable ou quelques connaissances, ça peut être bien. Pour d'autres enquêtes comme celle-ci, où vous allez vous focaliser plutôt sur une espèce, il faut simplement savoir reconnaître l'espèce et ensuite tout simplement savoir compter.
C'était la chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.
Et sur Bram FM, bien sûr, la chronique environnement proposée par Titouan Perron. Dans quelques instants, c'est la chronique en Limousin proposée par Le Graal. Et juste après, ce sera la météo avec Miss Météo, bien sûr. On va faire une pause en musique avec Tarantulato qui était en concert il n'y a pas si longtemps à la salle des Lendemains qui chante. On l'écoute. Gino Tarantulato sur Bram FM. Dans quelques instants, Isabelle sera dans sa robe couleur du temps pour vous annoncer la météo de demain. Il est 13h50, vous êtes ici sur Bram FM et c'est l'heure de votre rendez-vous avec la chronique en Limousin. A tout de suite.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Les couperas en Limousin font énormément parlé d'elle. La dernière en date a probablement été celle concernant le bois du chat à Tarnac, en Corrèze. À l'automne 2022, puis au printemps 2023, le propriétaire de cette parcelle a souhaité couper ses arbres. Mais un collectif d'habitants, soutenu par des associations environnementales et certains élus du territoire, se sont opposés à ce projet aujourd'hui gelé. Une opposition parce qu'au-delà de la coupe, aucun d'entre eux ne pouvait avoir accès au plan simple de gestion déposé par le propriétaire auprès du Conseil national des propriétaires forestiers. Ce plan simple de gestion, Philippe Brugère, président du parc naturel de Mille Vaches et par ailleurs maire de Meymac, nous en détaille le contenu.
Il a à la fois des données personnelles sur le propriétaire, des données fiscales, des données commerciales, c'est-à-dire comment il va valoriser son bois, l'exploiter, et des données sur les répercussions environnementales de cette culture, de cette sylviculture.
Et c'est justement ce dernier volet, les données environnementales, que le parc naturel régional a réussi à rendre public. Pour cela, il a monté un dossier auprès de la commission d'accès aux documents administratifs. Et aujourd'hui,
ces documents ne sont plus protégés par le secret des affaires tel qu'il était jusque-là, et donc sont communicables à quiconque en France en fait la demande. D'où le fait que la société civile, aujourd'hui, a un droit de regard sur ces documents, et ça change beaucoup de choses, parce qu'en fin de compte, on ne peut plus s'arranger avec les données environnementales dans ces documents de gestion, sachant qu'il y a des collectifs, des associations de protection de l'environnement, des collectivités comme le PNR, qui peuvent en demander la communication.
Le fait de rendre accessibles ces plans simples de gestion représente un véritable espoir pour Philippe Brugère.
Ça va assainir un certain nombre de tensions et éviter un certain nombre de tensions, parce qu'on voit bien que lorsqu'on organise le secret autour de ces éléments, eh bien, on génère que de la défiance, de la méfiance, voire de l'exaspération. Et le fait de mettre de la clarté là-dessus, eh bien, ça va gommer tous ces éléments négatifs.
Et cette clarté est d'autant plus importante que l'homme l'assure.
On n'est pas contre l'exploitation forestière, on est juste pour une exploitation forestière vertueuse, telle qu'on l'a indiqué et on l'a travaillé dans notre charte forestière. Notre charte forestière, elle prône une sylviculture de forêt à couvert continu, c'est-à-dire qu'on veut éviter les coupes rases, sauf dans des cas tout à fait particuliers, qui sont les coupes rases sanitaires, quand on a un bois monospécifique qui est attaqué par des insectes, et bien évidemment, il faut le couper. Mais hormis dans ces cas-là, on veut aller vers un autre mode de gestion forestière qui prend mieux en compte d'ailleurs les données de réchauffement climatique.
Et c'est justement l'épisode houleux du bois du chat, opposant acteurs de la filière bois à des citoyens, qui a poussé le PNR à se mobiliser.
Ça nous a permis de nous poser un certain nombre de questions, de prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à cette situation particulière du bois du chat pour voir ce qu'il en était de l'état de la jurisprudence dans le domaine. Et on a constaté qu'il y avait une distorsion de concurrence entre ce qui était admissible et imposé aux forêts publiques et puis ce qui n'était pas imposé justement aux forêts privées, qui sont largement plus nombreuses. 95% des forêts sont privées chez nous.
En permettant l'accès au volet environnemental des plans simples de gestion, les acteurs comme le PNR espèrent désormais
moins d'abus, moins de coupes rases vraisemblablement, puisque dans des zones protégées, comme c'était le cas dans la zone du bois du chat, le bois du chat était dans une zone Natura 2000. Il aurait pu être dans une autre zone protégée, une ZPS, c'est-à-dire de protection spéciale pour les oiseaux, par exemple, etc. Eh bien là, clairement, une coupe rase n'est pas admise. Et donc le fait de pouvoir, en amont, connaître ce plan simple de gestion nous permettra d'éviter un certain nombre de dommages à l'environnement et à la biodiversité.
Il y a quelques jours, le PNR a renouvelé sa demande d'accès au plan simple de gestion du bois du chat auprès du Conseil national des propriétaires forestiers. Si ce dernier venait à ne pas accéder à la demande du PNR, celui-ci se réserve le droit de déclencher une action devant le tribunal administratif de Limoges. Olivier Sérac, RGB pour le Graal.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et retrouvez la chronique en Limousin tous les matins entre 6 et 9 heures sur les ondes de Bram FM pour l'heure. Il est venu le temps de la météo.
But if there rain.
Pardon, vous avez dit quoi, Miss Météo?
Tu danses?
Allez, venez.
Allez, viens.
Là, 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 là. Voilà, on a dansé. La météo, Miss Météo, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà.
Mais bien sûr.
Asseyez-vous pour faire la météo, Miss Météo, ce serait plus confortable. En fait, je n'ai pas écrit la météo.
J'adore ménager la surprise comme ça.
Ah, mais surtout que cette émission n'était pas du tout pleine de surprises. Là, non, on a vraiment une émission.
C'est ça qui est bien.
Moi, je suis hyper détendue sur mon fauteuil. Là, j'ai passé une émission super décontracte. Tout va bien.
Mais tu gères ça comme une chef. Et tout le monde le sait.
Le peu de gens qui sont restés après les problèmes techniques le savent.
Mais non. Et figurez-vous que la météo de demain, mardi 16 janvier, ne nous réservera non plus...
Pas de surprise.
Je vais développer un petit peu quand même. Hein. Des nuages et de la pluie, des potrons minés avec des températures qui se situeront de 0 à 3 degrés du nord au sud de la Corrèze. Et puis pour l'après-midi, plus de précipitations au programme. Ça, c'est pas non plus une surprise. Hein,
un peu quand même.
Ouf. Juste quelques petits bancs de brume et de brouillard par endroit, mais en tout cas, encore un ciel bien, 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 et j'insiste hein, sur le nuage, bien, bien nuageux. J'insiste vraiment particulièrement sur la présence, l'omniprésence du nuage, hein, qui sera là demain toute la journée. Donc. Le mercure, lui, pour l'après-midi, ne nous donnera pas non plus de surprise, bien que... Très légèrement.
J'ai trop hâte de savoir ce qui vous fait rire, Miss Météo.
Non, je t'expliquerai plus tard. Bref, bien que très légèrement en hausse quand même par rapport à aujourd'hui, et ça, c'est une petite surprise quand même. Au meilleur de la journée, il fera 4 degrés à Ussel et Aigleton, 6 à Trégnac et Userche, 7 degrés à Tulle et Argentat, 8 à Beaulieu, et une maximale de 9 degrés à Brive-la-Gaillarde.
Moi qui ai rêvé qu'il neigeait toute la nuit, on peut dire que je ne suis pas devin. Merci beaucoup, Miss
si
Météo.
Ma météo s'avère fausse, on pourra dire que ce serait une surprise, non?
Ouais, mais je ne sais pas si j'ai encore envie de surprise.
Écoute, bon, on
merci.
En reparle demain.
À demain, Miss Météo.
Allez, une bonne journée.
C'est la fin de cette émission en direct. Merci à Thomas, Isabelle et Benjamin. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être fidèles malgré tous les petits rebondissements qui se passent sur cette antenne. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Bram FM dans la rubrique Vous êtes ici. La suite du programme sur les ondes à 14h, c'est l'émission Métaclassique de David Christoffel. Moi, je vous retrouve demain, normalement avec Mathilde de la base. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end à l'écoute de Bram FM. Ouais, à l'écoute de Bram FM. Yes, light it up, burn it up, hotter than hot, hotter than hot. Take us from the cup, we don't quit till we melt the snow off the mountain top.